La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Une maturité impressionnante, une acuité intellectuelle, une logique rigoureuse, une imagination foisonnante, une hypersensibilité. Les enfants dits doués possèdent une personnalité avec des caractéristiques plus ou moins prononcées. Ariel Ada est l'une des premières psychologues à s'être intéressée en France à ses enfants. Elle travaille dans divers centres de consultation. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la question et son nouveau livre « Psychologie des enfants très doués » sort aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Elle est l'invitée de l'émission dans un instant pour répondre à toutes vos questions concernant les comportements, les émotions, les relations au sein de la famille et puis également avec les autres enfants, la scolarité ou les tests de personnalité. Vous nous rejoignez avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé « la TAC ». Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, le jeûne pour booster le rajeunissement des cellules.
Oui, une expérience menée sur des souris montre qu'après un jeûne de 24 heures, elles ont pu doubler la capacité de régénération de leurs cellules dans l'intestin. Une nouvelle démonstration des vertus thérapeutiques du jeûne établie ici par une équipe du prestigieux MIT. Et on en discute avec le non moins prestigieux éco-physiologiste Yvon Lemao.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Les mercredis psy et philo avec Mathieu Vidard sur France Inter.
La psychologie des enfants très doués, un livre donc qui paraît aujourd'hui chez Odile Jacob et dont vous êtes l'auteur, Ariel Ada. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue. Depuis que vous étudiez ces enfants doués, est-ce qu'il est facile de dresser un portrait avec des descriptions constantes de leurs traits de personnalité, comme s'il s'agissait finalement d'une ethnie à part entière?
Voilà, justement, c'est le piège, c'est le danger, parce que ça risque d'être réducteur. On dit qu'ils sont hypersensibles, alors voilà. Bon, c'est vraiment... Ils ont des multiples facettes qui sont toutes intéressantes, toutes plus ou moins prononcées, mais ce n'est pas, il n'y a pas un prototype enfant doué. Ouais.
Bon, il y a quand même des traits de caractère communs, non?
Oui, c'est l'intelligence, la logique, la rapidité d'esprit, l'imagination, oui.
Ouais.
Alors le reste, c'est une question de dosage. Mais il n'y a pas un type d'enfant dont on dit « oui, c'est un enfant doué ».
En tout cas, vous travaillez depuis longtemps sur les comportements donc au sein de la famille, en société ou à l'école. Et on va se retrouver donc dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, certainement des parents aussi concernés par cette question.
Hein, d'anciens enfants doués.
Voilà, franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque » pour dialoguer avec nous dans un instant. À tout de suite. Et une nouvelle étude sur le jeûne aujourd'hui à la une de la science.
Diabète, hypertension, obésité, cancer. Le nombre de maladies explose, celui de la consommation de médicaments aussi. Les effets secondaires de certaines béquilles chimiques défraient régulièrement la chronique. La méfiance s'installe. Peut-être existe-t-il une autre voie thérapeutique. Une méthode ancienne, louée par les religions, longtemps méconnue par la science, le jeûne.
Voilà, c'est extrait d'un documentaire, Le Jeûne, une nouvelle thérapie de Sylvie Guillemin et Thierry de Lestrade, rediffusé en janvier dernier sur Arte. Et aujourd'hui donc, on s'intéresse à une nouvelle étude sur le développement des cellules souches dans l'intestin chez la souris. Étude qui montre que le jeûne accélère la régénération des cellules et pourrait permettre de guérir des infections gastro-intestinales, voire intervenir dans le traitement de cancer par chimiothérapie. Et Agnès, on en parle avec notre invité.
Yvon Lemao, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes directeur de recherche CNRS émérite et membre de l'Académie des sciences. Et vous êtes avec nous en duplex depuis le studio de France Bleu Alsace à Strasbourg. Alors dites-nous pour commencer, quels sont les effets du jeûne dans l'intestin chez ces souris testées dans l'étude?
Alors, cette étude montre que 24 heures de jeûne chez la souris. Alors, il faut d'abord dire que 24 heures, c'est beaucoup chez la souris, car la souris a peu de réserves corporelles. Provoque un déploiement des cellules souches qui sont des cellules non différenciées qui assurent la régénération.
Qu'est-ce que ça veut dire alors la régénération? Ça veut dire que les cellules, certaines substances sont éliminées, elles se reconstituent?
Alors cette étude, elle montre que par exemple après des dommages, les cellules intestinales vont se régénérer plus facilement après un jeûne. Mais cette étude montre aussi que ce processus passe par une mobilisation des lipides. Et c'est vrai que lors d'un jeûne, les lipides sont mobilisés.
Et donc, ça veut dire si ces cellules se régénèrent plus rapidement, deux fois plus rapidement, même disent ces chercheurs, elles vont être plus robustes pour réparer des dommages, par exemple ?
Mais elles vont permettre de ralentir surtout le vieillissement, puisque finalement la régénération est l'opposé du vieillissement. Mm-hmm. Et cette étude, d'ailleurs, elle porte à la fois sur des souris jeunes et sur de jeunes en âge et sur des souris âgées.
Yvan Lemao, pourquoi c'est compliqué de faire des études comme ça sur l'homme ? Parce que là, on passe par la souris, mais après tout, on peut demander à n'importe quel individu, vous trouverez toujours quelqu'un assez facilement pour faire un jeûne de 24 heures, par exemple, non ?
Oui, et nous l'avons fait récemment d'ailleurs, dans une clinique de jeûne thérapeutique. Mm-hmm. Mais
pourquoi l'animal alors ?
Pour comprendre les mécanismes. Pour comprendre les mécanismes, il faut aborder l'étude chez l'animal. Et d'ailleurs, on voit très bien que les domaines qui ne progressent pas bien au niveau scientifique sont ceux pour lesquels on ne dispose pas de modèles animaux.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on sait déjà des vertus thérapeutiques du jeûne ? Quel type de pathologie, sur quel type de pathologie, par exemple, il est efficace ?
Alors, il y a une renaissance d'intérêt pour le jeûne depuis les travaux d'un Italien qui est installé à Los Angeles et qui s'appelle Walter Longo. Mm-hmm. Depuis qu'il a montré qu'en faisant jeûner des souris, elles résistent beaucoup mieux à une chimiothérapie. On peut augmenter la dose de chimiothérapie et elles ne montrent pas, lorsqu'elles sont à jeun, les modifications comportementales, l'impact comportemental bien connu chez l'homme, vous savez, l'apathie, difficulté de bouger. Le jeûne semble protéger les cellules.
Donc il y a moins d'effets secondaires aussi, c'est ça, hein.
C'est ça, moins d'effets secondaires, oui, c'est cela. Et on peut même augmenter la dose de chimiothérapie avec un résultat tout à fait étonnant, c'est que la proportion de souris qui meurent est très importante chez celles qui sont normalement nourries et beaucoup moindre chez celles qui ne le sont pas.
Les cellules saines arrivent mieux à s'adapter au jeûne, en fait, par rapport aux cellules cancéreuses.
C'est ce que ça semble suggérer. Alors évidemment, ça suscite beaucoup d'intérêt de la part des patients sous chimiothérapie. Mais les médecins sont inquiets et disent qu'il faut encore faire de la recherche, il faut développer la recherche, parce qu'évidemment, il ne faut pas jeûner inconsidérément, et notamment lorsque l'on dispose de peu de réserves corporelles.
Oui, ça mériterait évidemment un encadrement très particulier chez les personnes qui, évidemment, essaieraient de faire ce type de choses. Donc là, on parle bien de la souris, c'est toujours important de le
Absolument.
Repréciser. Ouais. Agnès.
Oui, je suis chercheur, je parle des travaux sur la souris qui doivent être développés. Et avec quand même cette difficulté que, encore une fois, le 24 heures de jeûne, c'est un nombre important de jours de jeûne chez l'homme en équivalence.
On pourrait dire combien
des faibles réserves de la souris.
Ce serait combien?
Là, il y a une difficulté.
Et ce serait combien, Yvan Lemao?
Il faudrait, c'est difficile à dire, mais peut-être 5, 10 jours au moins en équivalence.
Alors, en revanche, par rapport à cette comparaison entre les animaux et les hommes, vous vous êtes beaucoup intéressé aussi, Yvan Lemao, au jeûne chez les animaux, notamment chez les manchots empereurs, qui eux peuvent jeûner jusqu'à 4 mois. Et vous pensiez au départ qu'ils mettaient en route des mécanismes très, très spécifiques, des mécanismes qu'on ne trouve pas chez l'homme. Mais en fait, on est assez semblables.
Oui, c'est exact. Je me trompais. Je me trompais à l'époque, quand je me suis lancé dans ces recherches. Et ce qui me frappe, c'est que dans le monde animal, les mécanismes sont les mêmes, ont la même intensité, comme si finalement l'adaptation au jeûne était un des premiers mécanismes qui se sont mis en place.
C'est pour ça.
Alors, ce qu'on a montré aussi sur l'animal qui jeûne spontanément, c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer sur la souris ou le rat de laboratoire pour des raisons évidentes, c'est les mécanismes de survie qui font que l'animal est induit à se réalimenter avant qu'il soit trop tard, lorsqu'il jeûne, pour se reproduire, pour migrer. Ça, on ne peut pas le faire sur la souris et le rat de laboratoire. Et les travaux sur les manchots ont permis d'obtenir des résultats qui ont permis de reprendre le modèle du rat de laboratoire en le faisant mimer ce qui se passe chez l'animal qui jeûne spontanément, et on a pu mettre en évidence ses mécanismes de survie.
Mais donc, ça veut dire que c'est un comportement ancestral chez les mammifères, les oiseaux, les hommes, cette faculté à jeûner, c'est inscrit dans notre mémoire.
Dans notre patrimoine, on va dire, physiologique, c'est-à-dire que l'animal est induit à se réalimenter, il a faim, avant que ses réserves n'atteignent un niveau qui serait dangereux pour sa vie.
Allez, dernière question pour vous, Yvan Le Mao, Agnès.
Oui, en Allemagne, près de 20% de la population déclare avoir jeûné à titre préventif. On est bien au-delà du cadre religieux ou d'un effet de mode ici. Pourquoi est-ce que chez nos voisins, il y a une meilleure acceptation du jeûne ? À quoi ça tient ?
Je ne sais pas, mais c'est vrai que beaucoup d'Allemands ont jeûné et à une époque même, la sécurité sociale allemande finançait le jeûne thérapeutique avec l'idée que ça permet en fait d'éviter beaucoup de pathologies.
Yvan Le Mao, on va parler des enfants très doués dans un instant avec notre invité Ariel Ada. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le jeûne et les capacités cognitives ? Est-ce qu'il y a eu des choses là-dessus ou pas ? Alors c'est vraiment une question que je vous pose, je ne connais absolument pas la réponse.
J'avoue que je ne suis pas au courant d'études dans ce domaine, mais ce serait très intéressant, évidemment.
C'est vrai, absolument.
En tout cas, tous ceux qui jeûnent régulièrement disent au contraire avoir des capacités plus étendues.
Ariel Ada, qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Non, je disais à ma connaissance, il n'y a pas d'études là-dessus.
Voilà, évidemment. Mais ça pourrait être intéressant d'en mener, peut-être.
Oui,
pour absolument. Voir si la restriction alimentaire crée des capacités plus importantes intellectuellement. Merci beaucoup Yvan Le Mao, merci aux équipes de France Bleu Alsace à Strasbourg qui ont permis ce duplex. Et puis Agnès, on se retrouve demain pour une nouvelle une.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une hausse fulgurante du nombre d'animaux utilisés justement pour tester des composés chimiques, ça se passe aux États-Unis. Un taux qui est passé d'environ 9000 animaux en 2015 à plus de 76 000 vertébrés en 2017. La cause de cette augmentation inquiète les groupes de défense du bien-être animal, d'autant que le Congrès américain avait ordonné il y a 2 ans de nouvelles mesures pour réduire les tests sur les animaux. Qu'est-ce qui justifie une telle augmentation ? Pourquoi les alternatives aux tests sur animaux n'ont pas été mises en place ? Ça n'est pas très clair. L'Agence de protection environnementale n'a pas encore réagi, mais elle ne devrait pas tarder. Son plan définitif pour réduire les tests sur les animaux doit être publié le 22 juin. Des ouragans qui se déchaînent en quelques heures entre Harvey, Irma, José, Maria. Les fortes tempêtes se sont accumulées l'année dernière. Et dans une étude publiée dans Geophysical Research Letters, les scientifiques leur ont trouvé un point commun. Ils sont très puissants et surtout ils se renforcent rapidement dans une période de 24 heures. Ce rythme et cette intensité marquent une différence avec les ouragans observés il y a 30 ans. Parmi les nombreux facteurs qui expliquent cette évolution, les scientifiques mettent en avant la hausse des températures de l'Atlantique liée selon eux à un cycle climatique connu sous le nom d'oscillation multidécennale de l'Atlantique. Et puis enfin, il va falloir cesser de les associer à la bande-son des Dents de la Mer. Les requins seraient plutôt amateurs de jazz. C'est en tous les cas ce qu'affirme une étude parue dans Animal Cognition. Dans cette expérience, les chercheurs ont cherché à tester leur capacité d'apprentissage en observant comment les requins associent un son à un lieu et éventuellement à de la nourriture. Et bien, il en ressort donc que le jazz a leur préférence, mais surtout qu'ils apprennent l'association plutôt rapidement. Un des chercheurs explique qu'ils ont vraiment de grands cerveaux et sont beaucoup plus intelligents que nous ne le pensions. Le but est aussi de redorer leur image dans l'opinion pour favoriser les politiques de conservation. Les enfants très doués, dossier dans un instant.
Show you just what I can do.
What's Chasing You, Marlon Williams.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Ariel Ada, vous êtes psychologue clinicienne et spécialiste donc des personnes douées, hein, parce que vous vous occupez des adultes comme des enfants.
Oui.
C'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants d'ailleurs, principalement, on les oublie un petit peu après.
Oui, c'est parce que les parents s'intéressent à leurs enfants, veulent savoir, et puis ils couraient dans comme ça l'idée que après tout, après les gens s'alignent, s'endorment, s'éteignent, se normalisent, je pourrais dire.
Et qu'en est-il ?
Non, pas du tout. Un enfant doué reste un adulte doué. Il a intérêt à être identifié le plus tôt possible.
Ouais, ça, c'est ce que vous dites, hein, effectivement.
Et oui. Et puis, il y a une phrase de Sioran que je cite, je ne sais plus où, où je dis « on ne devient pas normal impunément ». Et ça, cette phrase m'enchante.
Ouais, parce qu'un enfant doué n'est pas un enfant normal.
Oui, enfin, on ne se normalise pas impunément. Si, ouais. Un enfant doué est un enfant absolument normal. Il aime jouer, il aime rire, il s'intéresse à des quantités de choses, à toutes sortes de jeux. Il aime apprendre. Mais il y met une intensité que les autres n'ont pas. Mmh. Et puis, c'est multiple. Il a de multiples centres d'intérêt. Il a des passions. Son imagination galope loin. Il y en a beaucoup qui écrivent des histoires, qui inventent des histoires et ça les enchante.
Oui.
Et puis, on accentue beaucoup l'hypersensibilité, oui, mais c'est une façon de tout amplifier. Donc, je dis que pour eux, le monde s'écroule 3 fois par jour.
Oui, c'est ça, oui. Mais comment vous avez été amené à vous intéresser en particulier à ces enfants et à vous spécialiser finalement aussi sur cette question ?
Alors, il y a très très longtemps, dans les années 60, j'ai commencé à travailler. À l'époque, on faisait des tests systématiquement.
Oui.
C'était un protocole hospitalier, tests, entretien avec les parents et ensuite consultation médicale.
Enfin, oui. C'était...
Et donc, j'ai bien vu qu'il y avait des enfants qui étaient nettement au-dessus des autres et qu'il y avait des différences que peut-être je ne cernais pas, mais il y avait des différences, il n'était pas question de les aborder de la même façon. Parce que si on les aborde comme les enfants qui sont plus moyens, très vite on a l'impression qu'il y a une pathologie. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que l'imagination, par exemple, on dit « Ouh là là, dans quoi il part ?» difficulté avec papa, avec maman, avec les frères, enfin on dramatise, alors que lui, c'est son caractère, il est comme ça, il adore les histoires noires, il raconte, ils ont de l'humour noir, qui peut être noir, alors que les enfants ne l'ont pas, ils racontent des histoires qui peuvent être horribles, ils sont enchantés.
Ouais.
Il faut pas le prendre au sérieux, vraiment au pied de la lettre.
Ouais. Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de ces enfants, la proportion dans la société aujourd'hui, et dans une classe, par exemple? Parce que alors, je sais pas si c'est faux ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une inflation d'enfants doués en ce moment. On a tous autour de nous des parents qui découvrent que leur enfant, finalement, est doué avec un haut potentiel.
Oui, ça semble comme ça, c'est-à-dire qu'on les détecte.
Est-ce qu'il y en a plus ou pas?
Non, c'est toujours 2%. Le test est calculé et les moyennes, on compare les résultats d'un enfant à un test aux résultats obtenus par des enfants de la même classe d'âge dans une fourchette de 3 mois. C'est très précis. Mmh. Et ça se répartit. C'est-à-dire, je sais pas, des mots de vocabulaire. À 5 ans, il est normal qu'il puisse en donner, je sais pas, 20 définitions.
Oui.
Les enfants doués en donneront 30.
Oui.
Et il y en a d'autres qui en donneront 5. Donc ça se répartit comme ça. Alors je pense que l'école devenant un petit peu moins exigeante, demandant le saut de classe, l'entrée anticipée en CP à 5 ans devient très compliquée.
Oui, mais les tests restent les mêmes quand même, non ?
Ils sont renouvelés tous les 10, 15 ans, réétalonnés. Le dernier, le WISC 5, est sorti en novembre 2016, est plus difficile.
Ah, quand même.
Ah oui, oui, il est plus difficile. Un test ancien n'a plus de valeur. J'ai vu une petite fille, la mère me dit, elle a 140, je la vois. Non, elle a vraiment pas 140, c'est homogène, mais c'était un test. La psychologue avait fait un test qui datait d'il y a 2 tests.
Ouais.
Alors, ça perd sa valeur. Ouais. Mais on dit, c'est 2%. De toute façon, c'est 2%. Mais en classe, c'est plus difficile pour eux. Alors que des gens qui sont plus âgés disent, bon, j'ai eu une scolarité assez facile, j'ai sauté une classe, je n'ai pas eu de problème.
Ouais.
Mais c'était plus difficile.
Il y a Laetitia qui nous envoie ce message. Il y en a beaucoup qui arrivent déjà sur le site de l'émission. Elle est maman de 3 enfants, dont un est un enfant précoce. Il va avoir 20 ans. Et je pense, dit-elle, que mon 3e enfant présente les mêmes particularités. Pourquoi parler d'enfant doué? Est-ce une autre appellation qu'enfant intellectuellement précoce? Ou est-ce autre chose?
Non,
ça tombe bien, parce que je voulais vous poser
doué,
la même question.
J'ai toujours dit doué parce que ça englobe beaucoup de choses.
Au potentiel précoce, on parle bien de la même
chose. C'est
la
même chose.
Bon.
D'autant plus que en tout cas pour les adultes doués, ils ont toujours d'autres dons. Ils sont artistes, ils font de la peinture, ils écrivent des livres, ils font de la poésie ou de la photo. Enfin, ils ont très souvent un autre don qui leur permet d'exprimer une partie plus sensible, plus affective de leur personnalité, indépendamment du don intellectuel.
On évoquait avec vous, il y a un instant justement, ces tests de reconnaissance. On va écouter l'extrait d'un reportage qui a été diffusé sur la radio-télévision suisse en 2017 sur les surdoués, justement, haut potentiel de souffrance. C'était le titre du documentaire.
Qu'est-ce qu'il a de spécial, Esteban ?
Il est très sensible. C'est soit tout à fait, soit pas du tout. Il n'est pas trop au milieu. Par exemple, prend la vie du bon côté, prend la défense des faibles. Mais d'un autre côté, ils se sont vite incompris. Il y a beaucoup d'injustice, ça le révolte. Et du coup, ça déborde. Il est très vite envahi par ses émotions. Mais c'est un enfant plein de vie. Plein de vie, mais pas facile à éduquer. Le souci avec lui, c'était qu'il était perturbateur dans sa classe et puis qu'on n'arrivait pas à le situer et le rendre heureux dans sa scolarité. Donc pour finir, on lui a fait sauter une classe et ça s'est passé bien mieux.
Voilà le portrait d'Esteban, Ariel Ada, donc extrait de ce documentaire. Faire sauter une classe, c'est souvent une solution d'ailleurs pour résoudre un certain nombre de problèmes.
Moi, je trouve le primaire est beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de redites. Alors même d'ailleurs, l'éducation nationale le reconnaît, le CE2 en particulier, c'est vraiment une redite du CE1. On leur explique qu'ils comprennent, ils savent, et sinon ils s'ennuient. Ils s'ennuient, alors ils deviennent comme Esteban, perturbateurs, ou alors ils s'endorment.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a d'autres messages. Eric nous dit, mon fils de 16 ans en classe de seconde a été tardivement diagnostiqué précoce en classe de troisième. Il a au fil des ans développé un système paresseux en comprenant sans effort et en maintenant que le niveau scolaire monte. Il se heurte à l'exigence attendue de ses enseignants et reste dans un fatalisme passif. Quel conseil pour lui donner le goût de l'effort? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel justement vous insistez
aussi.
Ah oui,
moi je radote là-dessus. Ouais. Je dis qu'il faut donner très tôt le sens de l'effort. Ils n'ont pas le sens de l'effort parce qu'il n'est pas nécessaire.
Ouais. Et ça, c'est vraiment à double tranchant.
Ah oui, c'est terrible. Pendant tout le primaire,
c'est le piège.
Au moins sauter une classe, ça leur donne un petit élan. Mm-hmm. Mais pendant tout le primaire, ils ne font aucun effort. Mais parfois, même jusqu'au bac. Je vois des gens qui me disent, je n'ai pas travaillé et j'ai eu le bac, eu une mention assez bien, mais je n'ai pas du tout travaillé. Et après, c'est la catastrophe.
Alors
après,
ils s'effondrent. En réalité, c'est pas une chance du tout.
Ah non, ils s'effondrent. En prépa, le nombre de gens que je vois en prépa qui basculent, ou médecine, ou le droit, enfin, où il faut apprendre par cœur, ils ne savent pas. Jusqu'à présent, ils lisent, ils savent. Là, ils ont beau lire, ils ne savent pas. Ouais. Alors, il y a des techniques. Il faut leur apprendre non seulement le sens de l'effort avec du sport, genre dit le patinage artistique, les sauts en ski, enfin, ces choses qu'on admire en disant, mais comment font-ils?
D'accord.
On dit, c'est du travail. Hein. Ouais. Donc, le sens de l'effort avec du... Les filles font de la danse, alors là, on ne sait jamais assez bien, on est tranquille. Des sports assez raffinés. Moi, je préconise les sports de combat qui aussi permettent la maîtrise des émotions, comme on disait Esteban.
Ouais. Donc, être confronté à l'effort, un peu de rugosité.
Absolument, se dépasser. En plus, ils aiment bien se dépasser. Je parle du goût du défi. Ils aiment ça, mais il faut en avoir l'opportunité. Et l'école ne la donne pas. Et il y a aussi des techniques. Alors moi, je ne connais que la gestion mentale qui apprend aux enfants à utiliser leur intelligence. Comment procéder pour retenir par cœur.
Donc ça, ce sont vraiment des méthodes.
Ah, c'est des méthodes. Ouais. Il faut absolument passer par là. Sinon, il s'effondre. Il s'effondre, lui, c'est en troisième. Mais ça peut arriver en première.
Donc ça, il faut vraiment le négocier avec son enfant assez tôt. Pour lui dire, attention, parce que tu as des facilités, mais ça va te jouer de mauvais tours plus tard.
Il faut lui expliquer. Mais lui expliquer, vraiment. Les enfants sont très sensibles. Mmh. Moi, je dis, par exemple, pour les neurones, quand il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, les tables de multiplication, etc., je leur dis, mais on dit qu'ils doivent entraîner leur cerveau. On montre les neurones, on montre comment ça fonctionne. On dit, tu vois, ces routes-là, il faut que tu t'entraînes, là. Ouais. Et ça, c'est un argument scientifique. Et ils sont très sensibles.
Ça. Voilà, c'est ça. Il faut leur donner de la matière aussi. Oui. Hein, parce qu'ils aiment raisonner, ils aiment les données, ils aiment le savoir. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à argumenter aussi avec eux.
Voilà, il faut, alors, pas négocier éternellement, mais leur donner des arguments scientifiques incontestables.
Oui, on reviendra sur cet aspect négociation pour les parents, parce que c'est très important de ne pas tomber dans ce piège-là, justement. Allez, on écoute Aurel Sané et Stromae, et puis on se retrouve juste après Ariel Ada avec d'autres messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Julien Clerc dans le monospace, je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Moyen du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermé dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer.
Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi, il fait beau.
Et la pluie, c'est le duo Stromae-Orelsan.
La tête au carré.
Qui veut essayer 3 plus 3 ?
3 plus 3. Sans rire.
Je te demande pardon ?
On est dans quel genre d'école, en fait ?
Dans le genre d'école où les élèves ne parlent pas sans permission.
D'accord, mais tout le monde sait que ça fait 6.
Personne dans cette classe ne prend la parole sans y avoir été invité. Combien font 9 plus 8 ?
Ça fait 17.
Oui, c'est ça. Combien font 15 plus 17 ?
32.
Oui, c'est exact. Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57 ? Très bien. Qui peut me dire combien font
7695. La racine carrée est 87,7. Sinon, ça veut dire quoi, ad nauseam ?
Voilà, extrait de ce film Marie, sorti en 2017, Ariel Ada, un exemple hein, que certains professeurs enseignants qui nous écoutent ont probablement vécu.
Hein. Pas souvent quand même.
Ah bon, à ce point-là,
oui,
pas
souvent. Oui, ils sont plutôt du genre à dire que 3 fois 8, ça fait 21.
Ah oui ?
Ah oui, oui, ils flottent un petit peu, ils n'apprennent pas leur table de multiplication, parce qu'à quoi ça sert, on peut compter. Et ils sont pas. Et on a comme ça des enfants... extraordinaire, mais moi je veux dire, j'en ai jamais vu en
c'est
arithmétique.
Vrai
non.
Ah, tiens,
pourtant,
c'est
j'en ai
drôle.
Vu des milliers, j'en ai jamais vu. J'ai demandé à mes collègues, je ne sais pas où on va pêcher ces enfants, puisque parfois on en voit à la télévision.
C'est vrai, mais oui.
Et dans le courant, ils ne sont pas.
Ah, donc, c'est pas du tout représentatif ce qu'on vient d'entendre de la réalité.
Pas du tout. Ouais. Pas du tout, ils flottent. Alors ils aiment bien les maths, il y en a qui aiment bien, mais ça va pas, c'est normal, quoi. Ça reste dans la norme. Maintenant,
ouais.
Ça me fait penser à la leçon de Ionesco. Enfin.
Alors, des messages des auditeurs, justement, des témoignages, il y en a beaucoup, hein, vous imaginez.
Moi, j'imagine.
Il y a Laure qui nous dit, j'ai un enfant très doué de 6 ans et son frère aîné 7 ans et demi, qui est normalement doué, ce qui est parfois difficile pour l'aîné, dont le petit frère est souvent plus fort, plus rapide, plus malin, en un mot, plus doué. Comment gérer affectivement, notamment, cette différence? Ça, c'est pas facile, hein. Surtout quand c'est l'aîné, hein,
oui, l'aîné
qui est moins doué.
L'aîné garde ses prérogatives d'aîné, sa place d'aîné.
Ouais. Ben oui, mais s'il est moins doué, il ne brille pas de la même manière.
Il a certainement un domaine où il peut briller.
Ouais.
Et puis, même pour le cadet, l'aîné occupe une place qu'on ne remet jamais en question. Il rêve de le dépasser, ouais, mais ça reste un rêve. L'aîné le protège, l'aîné doit garder sa place. On la lui reconnaît. Et on lui donne aussi des spécificités. Il a certainement des domaines où il est aussi brillant.
Ouais. Sauf qu'il peut se sentir dévalorisé vis-à-vis de son petit frère. Et ça, c'est compliqué aussi, non ?
Il peut, surtout s'il était un peu jaloux à la naissance, parce que là, il n'y a pas beaucoup de...
Ah, oui, en plus.
Ouais, alors, s'il a eu des jalousies, alors ça le travaille. On lui redonne du brillant. On lui redonne du brillant avec des activités qu'il fera, que l'autre ne fait pas.
Donc ça, c'est le travail des parents, de bien...
Et puis sa place, la place
de bien localiser ça.
Voilà, ne bouge pas, elle est intangible. On peut rien... Enfin, il n'y a rien à discuter de ce côté-là.
Ouais. Alors, on a un autre message, celui de Dominique, qui a été déclaré haut potentiel à 61 ans. Et alors, c'est intéressant ce qu'il nous dit, parce qu'il déclare « Je suis passé à côté de ma vie, l'impression d'avoir vécu sur un mensonge, celui de penser qu'on fonctionne tous pareil et par conséquence que je n'étais pas aux normes, inadapté, voire pire. J'ai passé ma vie à me contorsionner pour être aimé, pour être comme les autres. » Diagnostic ultra tardif, alors ?
Je vois des gens qui disent, alors ce sont donc des grands-mères parfois, qui disent « Mais mon petit-fils a été diagnostiqué, et finalement je me suis documentée et j'ai encore des années à vivre, je vais prendre ma retraite et je veux en avoir le cœur net, je veux savoir. » Et c'est un soulagement extraordinaire. Quand les gens apprennent qu'ils sont doués, c'est une grille de lecture qui apporte un éclairage qui ne ressemble à rien d'autre.
Donc ils passent des tests aussi ?
Ils passent des tests, l'étalonnage, ça va...
Adapté à leur âge ou
oui,
pas ?
Oui, le veille se va jusqu'à 79 ans. D'accord. Donc on a de la marge.
Oui, effectivement.
Ouais. Oui, bien sûr. C'est étalonné, c'est tout à fait... Parce qu'il y a des choses qui diminuent un petit peu, la rapidité, le calcul mental, des choses comme ça. Mais c'est un éclairage qui les soulage terriblement.
Ouais.
Ça y est, ils sont enfin en accord avec eux-mêmes.
Mais c'est terrible quand même, parce que ce monsieur nous dit « J'ai l'impression d'avoir vécu sur un mensonge, d'être passé à côté de ma vie. »
C'est un bouleversement, oui. Sur le moment, ils sont émus, je les vois qui pleurent. Même en passant le test, parfois. Ah oui, il pleure.
Parce qu'il réalise
l'émotion,
tout ça.
Et même quand on fait passer un test à un adulte de cet âge-là, on l'accompagne au fur et à mesure du test. Par exemple, une prof, il dit « Ah non, je n'ai pas du tout de mémoire. » Puis s'aperçoivent qu'ils réussissent et on les accompagne. Et c'est une révélation petit à petit. C'est terriblement émouvant pour eux-mêmes. Même si, enfin, ils se rendent compte qu'ils réussissent. Ils disent « Mais c'est facile, finalement. »
Ouais.
Et là, ça leur apporte un éclairage. Ça y est, enfin, ils comprennent. Ils comprennent pourquoi ils ont du mal à avoir des amis, pourquoi au bureau c'était difficile. Ils comprennent.
Alors, dès le départ, d'ailleurs, vous parlez du choc des parents lorsqu'ils apprennent que leurs enfants sont à haut potentiel ou sont doués. C'est pas toujours une bonne nouvelle ? Enfin, c'est pas toujours accueilli comme étant une bonne nouvelle ?
Non, en général, non. On croit que les parents, les mécaniques se vendent,
exactement,
mon enfant est doué. Pas du tout.
Et que ça rend très heureux.
Pas du tout. Ils ont lu, s'ils sont documentés, ils ont toujours eu des images catastrophiques. Ils se disent, il va être plus... Alors, au fond d'eux-mêmes, ils se disent, il est peut-être plus intelligent que nous. Donc, on ne va pas savoir le...
Ah oui, c'est vrai.
On ne va pas savoir le manager, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on va garder de l'autorité. Alors que les parents restent les parents, la question ne se pose même pas. Mais eux se disent ça, alors que c'est pas vrai. Il y a une partie génétique. Les parents peuvent faire partie des adultes doués non reconnus. Donc, il y a quelque chose, mais ils ne veulent pas le savoir. Alors, ils ont peur de ça. Ils se disent avec l'école, ça va être la galère. Et là, ils ne se trompent pas. Là, ils voient juste. Donc, ils se disent, on va au-devant d'ennuis terribles. Et moi, je leur dis, mais c'est quand même un bonheur, une richesse, un plaisir des enfants. Ouais. Ce sont des trésors. Vous visitez un musée avec eux, vous participez à la nature qui est si belle. Ils le ils le comprennent, ils le saisissent.
Oui, finalement, il y a beaucoup d'idées négatives qui circulent aujourd'hui hein, sur les hauts potentiels.
Oui, parce qu'on met l'accent sur les côtés...
sur les difficultés.
Oui, alors, et d'une part, on en fait des calculateurs de génie, ce qui n'existe... Enfin, c'est vraiment
des singes savants.
Oui, mais, oui, on a tendance, ils savent beaucoup de choses, alors que non, ils ont cette sensibilité qui imprègne tout, et ils adorent parler avec les adultes, parce que surtout si on leur parle, non pas comme à des enfants, mais à des êtres humains normaux, enfin, on bêtifie pas, ils sont enchantés, hein, ils partent de là, ils sont vraiment ravis, on leur fait des compliments, ils sont ravis.
Ariel Ada, on va écouter un nouvel extrait du film Marie. Là, c'est la rentrée des classes. Et c'est la rencontre entre la directrice et un père d'enfant doué.
Comment allons-nous régler ça? Vous savez qu'elle peut être renvoyée?
J'espère que non.
Mademoiselle Stevenson pense que votre enfant est exceptionnel et que notre programme scolaire n'est pas du tout adapté à ses capacités. Il se trouve, justement, que je suis très amie avec le directeur de l'Institut Hawks. Pour enfants surdoués.
Je suis conscient qu'envoyer son enfant dans cet institut, c'est ce que feraient des parents dans 9 cas sur 10. La dernière chose dont cette petite fille a besoin, c'est qu'on souligne le fait qu'elle est différente. Croyez-moi, elle le sait. Alors, je crois que Marie doit rester dans votre école. Ça s'est mal passé aujourd'hui, on ne frappe pas les gens. Mais un grand brutalise un petit de 7 ans et elle, elle le défend.
Monsieur Adler, votre fille a cassé le nez d'un enfant.
Non, je regrette, je décline votre offre. Marie reste ici. Sauf si vous la virez.
C'est une grave erreur. Nous ne serons jamais en mesure de hisser votre enfant au niveau d'excellence auquel elle peut prétendre.
Contentez-vous d'en faire quelqu'un de bien.
Ariel Ada, que pensez-vous des propos de ce père qui dit, mais surtout ne soulignez pas que ma fille est différente. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, finalement.
Mais non, il faut prendre en compte. Ce n'est pas une différence, c'est quelque chose en plus. On ne peut pas dire que c'est un enfant différent, mais il faut prendre en compte le don intellectuel. Quand on dit sauter une classe, on a pris en compte. Nourrir, lui permettre de lire, même pas voir, ils lisent en classe. Bon, ils ont compris, ils ont entendu, ils lisent. Ouais. Mais il vaut mieux quand même, au moins, qu'ils fréquentent des enfants comme eux, ponctuellement, pour quelques activités ponctuelles. Je parle d'oasis bienfaisantes. Ils sont entre eux, ils sont heureux. Ils peuvent s'amuser, ils n'ont pas peur d'être jugés, ils sont sûrs d'être compris, tandis que les autres ne les comprennent pas toujours, ne comprennent pas leur humour.
Est-ce que c'est pas une bonne initiative de la part de ce père de vouloir justement laisser sa fille dans une école voilà normale pour être intégrée socialement aussi avec des enfants très différents, plutôt que de la mettre dans une bulle? Dans cette oasis un peu que vous décrivez là.
Alors oui, l'oasis c'est ponctuel, hein. C'est un samedi de temps en temps, ponctuellement, une colonie de vacances.
Mais une école spécialisée, là on n'est plus dans.
Alors il ne faut pas rêver parce qu'il y a très très peu d'écoles spécialisées, donc c'est pas la peine de fantasmer là-dessus. Alors il faut que l'école soit quand même d'un bon niveau, il faut qu'elle alimente les enfants, tout dépend des écoles. Je vois des parents qui disent non, les maîtresses sont bien, elles alimentent bien, elles leur apprennent des choses intéressantes, il y a des maîtresses de maternelle qui sont fantastiques, là c'est parfait. Mais si on répète, on radote des choses qu'ils connaissent par cœur depuis toujours...
Ils vont s'ennuyer.
Là ça ne va pas du tout. Donc tout dépend de l'école. Et aussi du regard de la maîtresse. Là, dans l'épisode précédent, vous voyez la maîtresse qui supportait très mal que cet enfant réponde si bien. Et là, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Il faut que si l'enfant se sent compris et apprécié de la maîtresse... Ça ira beaucoup mieux.
Isabelle nous écrit, je suis enseignante justement, j'ai en cours un enfant à haut potentiel, ce jeune élève de 6e introverti, ayant peu d'estime de soi, a beaucoup de mal à trouver sa place dans la classe, il s'ennuie, se dit déprimé, il prend de la distance avec les propositions pédagogiques que j'ai pu lui faire et n'y adhère vraiment pas, je suis totalement désemparée, dit Isabelle, que faire?
Peut-être lui donner un travail personnel à faire sur une recherche, quelque chose qui l'intéresse, un domaine où il est passionné, qu'il fasse un exposé, qu'il puisse avoir il a certainement le goût de la recherche, les enfants le goût de la recherche, et ensuite qu'on lui reconnaisse ce qu'il a fait, qu'on lui reconnaisse son travail, quelque chose qui le motive lui personnellement, sinon... Mais peut-être qu'il veut aussi, il ne veut pas se différencier des autres aussi, il y a aussi ça.
Mais un enfant qui se dit déprimé en sixième, il faut être attentif à lui, j'imagine.
Ça
peut poser problème quand même.
Oui, parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent mourir. Des parents m'appellent en disant, je suis très ennuyée, il dit qu'il veut mourir. Alors, Moi, je rassure en disant, les enfants disent, ils ne réalisent pas très bien ce que ça veut dire, ils n'ont pas cette notion que nous, on a de la mort. Donc, pour eux, c'est, j'en ai assez, je veux partir. Enfin, mais je veux partir, mais pas partir définitivement. Ouais. Je veux partir de là. Mais oui, il faut quand même en tenir compte, il faut tout examiner. Il y a aussi, il y a le harcèlement, malheureusement, dont il faut tenir compte. L'école dit non, chez nous, jamais. Mais enfin, il y a des harcèlements subtils. Là, il faut en tenir compte, peut-être changer d'école, ou alors, je reviens à dire qu'ils rencontrent des enfants comme eux. Là, et même je donne comme conseil, justement, puisque ça, ce livre est fait des chroniques qui ont paru dans le Journal des Femmes, sur Internet, je dis aux parents de faire lire à leurs enfants, ou de leur lire ces chroniques, ou des passages. Parce que là, ils reconnaissent quelque chose d'eux. Oui. Ils n'ont pas l'impression d'être fous, parce qu'ils croient qu'ils sont fous, d'être anormaux, non. Et ils lisent noir sur blanc, écrit par quelqu'un qui ne les connaît pas, quelque chose qui les concerne. Mmh. Ça les apaise, ça les soulage.
Et ça peut amorcer un dialogue aussi, hein, pour sortir un petit peu du problème.
Hein. Et ça peut amorcer un dialogue.
Ariel Adda, psychologie des enfants très doués, vous êtes notre invité cet après-midi. Livre qui paraît aujourd'hui chez Odile Jacob. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion avec d'autres nombreux messages pour vous qui arrivent sur le site de La Tête au Carré. Tout de suite, Francis Cabrel, le chêne Liège.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi. Descendait quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
La Tête au Carré sur France Inter.
Allez, on va se ranger. Ouais.
Veiller sur ses enfants, considérés souvent comme trop intelligents, n'est pas de tout repos.
Allez, on y va.
Certains sont rebelles à toute forme d'autorité, comme Virgile par exemple.
Qu'est-ce que c'est nul, cette école.
Pour lui, venir à l'école, c'est une corvée.
Virgile, tu sais très bien que si je te laisse tout seul à l'arrière, tu ne seras pas concentré. Tu vas sortir un livre et tu vas le lire pendant mon cours. Et ça, c'est pas acceptable. Tu as quelque chose à dire?
J'apprends mieux en lisant, quoi. Bah, de toute manière, j'aime pas l'école, donc...
Pourquoi tu n'aimes pas l'école?
Parce qu'elle s'ennuyait.
C'est ennuyeux, tu penses?
Bah, rester toute sa journée assise sur une chaise.
Non, c'est pourtant des choses intéressantes.
Il y a raison.
Bah, des choses intéressantes. Je prends les mêmes choses dans des livres aussi. Donc...
Tu as cette faculté de pouvoir lire et de retenir en même temps ce que je dis.
Oui.
Virgile, il faut que tu apprennes à ne pas systématiquement vouloir avoir le dernier mot.
Oui.
Très bien. Donc, tu me dis oui et tu ne dis plus rien.
Oui.
Alors, qui veut démarrer?
Voilà ce documentaire sur les enfants à haut potentiel, Ariel Ada, pour illustrer votre livre Psychologie des enfants très doués. On sent, alors ça c'est une constante aussi, enfin vous le dites, il y a aussi ce sentiment de toute puissance quand même chez ces enfants parfois, avec cette pointe d'arrogance là qu'on entendait chez ce petit garçon.
Oui, hein, ils se sentent comme si c'était sur le mode défensif.
Ouais.
Ils sont défensifs, ils se sentent à l'intérieur pas très sûrs d'eux-mêmes, ouais, pas très un peu
enfin,
fragiles.
Ce qu'ils disent, c'est je sais, je m'ennuie, ça m'intéresse pas, laissez-moi tranquille.
Oui, 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 là la maîtresse, bon, elle m'embête quoi.
Ouais.
Alors non, la toute puissance, c'est surtout pour les jeunes enfants. Ça, c'est ils parlent très bien, donc ils ont envie d'exercer leur don oratoire.
C'est ça.
Et ils négocient
tout le temps
pour le plaisir.
C'est ça. Ça, c'est et épuisant pour les parents.
C'est
hein,
un cauchemar, parce qu'ils négocient tout et ils n'ont rien à perdre.
Ouais.
On ne va pas les mettre dehors, on ne va pas leur priver leur salaire, enfin, ils n'ont rien à perdre. Donc, ils négocient à fond, à mort, je dirais, et les parents n'en peuvent plus. Et moi, je dis qu'il ne faut pas négocier, qu'on explique pourquoi on demande quelque chose. On est tes parents, on t'aime, on fait ce qu'il y a de mieux pour toi. Si on te demande de faire ça, c'est que c'est bien pour toi. Parce que négocier, c'est accepter des compromis.
Ouais. Et il faut garder sa place de parent.
Voilà.
Avant
négocier, c'est accepter un compromis. C'est comme le marchandage. Si vous commencez à marchander, le marchand dit c'est bon, je peux y aller, je vais y arriver.
Ouais.
Comme se justifier son attitude, c'est se sentir peut-être pas très sûr de soi et un peu coupable. Il faut ni se justifier, ni négocier. Ouais, voilà.
C'est vrai.
C'est pas facile.
Ouais. Alors, ces enfants, est-ce qu'ils ont beaucoup d'amis? Est-ce qu'ils arrivent à se socialiser facilement ou pas?
Alors, souvent, je vois des enfants, le motif de consultation, c'est il n'a pas d'amis, il est tout seul dans la cour.
Ouais. Ça, c'est
et
triste,
je vois des enfants adorables. Et je dis, alors, ils ont des QI très élevés. Je leur dis, mais je comprends que tu puisses ne pas avoir d'amis.
Par exemple, c'est quoi un QI très élevé?
155, c'est le maximum, 160. Enfin, il y a 4 échelles, il y a 150, 155. Il y a 5 échelles maintenant, puis une échelle globale. Mais là, on comprend, ils fonctionnent trop vite, ils ont trop d'idées, et puis ils réagissent trop vivement. Donc là, vraiment, avoir des amis... c'est difficile. S'ils sont trop sensibles, s'ils sont pas très sûrs d'eux, s'ils sont un peu repliés, renfermés, un caractère comme ça, introverti, c'est très difficile. Ceux qui sont extravertis, ils deviennent leaders, ils entraînent toute la classe, ils proposent des jeux, c'est parti, ils ont une aura formidable.
Ouais. Ça fait penser à Napoléon que vous citiez dans un de vos premiers livres, c'est
voilà,
ça?
Voilà, Napoléon qui a organisé une bataille de boules de neige qui a duré 9 jours, je crois, parce qu'il y avait de la neige.
Ouais.
Toutes les troupes ont suivi. Il avait absolument pas de problème de solitude et d'être à part.
C'est extraordinaire comme exemple.
Mais c'est extraordinaire, il a continué.
Il a fait la même chose plus tard.
Il a continué avec son charisme d'enfer. Hein. Il savait mener ses troupes.
Ouais. Alors, les messages, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Cynthia nous dit, ma fille de 8 ans a sauté la dernière classe de maternelle. Tous les professionnels qui la rencontrent nous laissent entendre qu'elle est douée, mais nous hésitons à faire un test. Nous avons peur des conséquences sur elle et sur nous.
Il n'y a absolument aucune conséquence à faire un test.
Ouais.
Le test montre, je vous ai dit, il y a 5 échelles, donc ça montre les points forts, les points faibles. Il y a forcément des points faibles, il peut y avoir des petites difficultés ponctuelles, autant les déceler, et les points forts, ils savent qu'ils peuvent compter là-dessus, le test, et les enfants en plus sont enchantés de passer un test.
Ouais.
Et je vois des adultes qui reviennent avec le test qu'ils ont passé enfant, en disant, je continue à le lire et ça m'intéresse, ça m'apprend des choses.
On parle toujours d'un an d'avance, est-ce qu'on peut avoir 2 ans d'avance aussi? Il y en a des enfants qui sautent de classe. Hein.
Oui, on peut tout à fait. Il y a aussi une question de mois de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui naissent en janvier, ils sont les plus vieux de la classe, ça ne rime à rien. Ils sont nés un 3 janvier et ils sont le plus vieux alors qu'ils ont le plus élevé de la classe, ça ne rime à rien.
Donc là, il faut faire sauter deux classes.
Il faut faire sauter, absolument.
Ouais. Alors Anne nous dit, je voudrais quand même attirer l'attention des parents d'enfants doués sur le fait qu'une classe sautée signifie une année de vie de moins commune avec son enfant, ce dont personne ne parle jamais. Toute la vie adulte, âge du premier rapport sexuel, vie avec un compagnon ou une compagne, vie au travail, tout sera avancé d'autant.
Non. Ben non, absolument pas. Y a la maturation. Ça sera pas la vie avec les parents. Vous avez Tanguy là qui reste jusqu'à...
Ouais.
Donc non, pas du tout. Ça... autant qu'il soit heureux, autant qu'il soit bien, autant qu'il fonctionne à son rythme.
Donc pas de handicap particulier à faire sauter les classes, hein, selon vous.
Pas du tout.
Et l'expérience le montre.
Ah oui, moi j'ai des retours, hein. Tous les gens que je vois me disent « vous m'avez fait sauter une classe et j'en étais très heureux
». Est-ce qu'il arrive parfois que ces enfants redoublent après avoir justement sauté une classe? Et comment est-ce qu'ils vivent justement cet épisode particulier de leur vie scolaire?
Alors, ils redoublent même sans avoir sauté de classe.
Ouais. Ça doit être terrible, ça, pour un enfant doué,
non? C'est un choc dont ils ne se remettent pas de leur vie entière.
Ah bon?
Je raconte que, un jeune homme me racontait, il rêvait qu'il mourait. Mais adulte, enfin il avait 30 ans. Et finalement, j'avais en thérapie, on a réalisé que c'était associé à un redoublement. C'est vraiment être rejeté dans... C'est comme un échec à un examen, le premier échec à un examen. C'est être rejeté dans les ténèbres extérieures. C'est être nié dans ce qu'ils pensent être eux-mêmes, de leur nature propre, ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent d'eux. Un redoublement est catastrophique. Ça peut arriver parce que ils ont fait les fous, ils sont pas intéressés, ils avaient l'impression... Il y a un côté joueur de poker, je peux toujours me refaire, c'est facile, je me referai. Puis finalement, non, en quatrième ou en troisième, ils se refont pas comme ils pensaient pouvoir le faire.
Donc ils vivent ça comme une humiliation.
Ils le vivent comme une négation de ce qu'ils sont.
Ouais.
On les rejette.
Ouais. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur l'idée de l'échec aussi, parce qu'il faut qu'ils soient confrontés à ça. Parce que l'expérience peut être aussi intéressante à vivre, mais il faut les accompagner aussi là-dedans.
Ah oui, mais
parce qu'ils ne sont pas préparés.
Quand je parle sens de l'effort et des gens qui en prépa ou en première année de médecine, on a des vraies dépressions. La vraie dépression avec hospitalisation, médicaments, les arrêts des études. J'ai vu des gens qui avaient arrêté leurs études. Une vraie dépression parce qu'ils avaient été collés et ils n'ont pas compris. Ils ont l'impression qu'ils avaient arrêté parce qu'ils avaient fait une dépression. Mais non. Et il fallait reconstruire l'enchaînement. C'est effrayant.
Guilhem nous dit « Mon fils aîné est concerné par ce sujet. Il s'est retrouvé à réussir sans aucun effort jusqu'en troisième. Aujourd'hui, en première S, il décroche. Il n'est capable d'effort que dans l'art martial qu'il pratique.
Voilà,
Peut-on avoir des idées pour l'amener à prendre conscience de la nécessité de pouvoir transposer cela aux autres domaines et pas seulement donc au tatami ?»
Il faut lui apprendre à travailler parce que lui n'a pas les méthodes. Il n'a jamais eu besoin de méthodes. Il lit, il sait. Alors comment apprendre par cœur quand on n'a jamais eu besoin d'apprendre par cœur?
Ouais.
Je dis gestion mentale, il y en a peut-être d'autres, mais ça passe par des méthodes. Lui-même, tout seul, ne trouvera pas.
Ouais.
Il ne faut pas rêver, ça n'a rien à voir avec le sport de combat. Il ne faut pas lui mettre ça sur le dos, parce que c'est trop lourd, trop écrasant. Il ne sait pas. Ils disent qu'ils restent des heures devant un cahier, ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire, ils ne savent pas. Donc, il faut leur apprendre.
Ariel Ada, terminons par un message d'Alexandra qui nous dit « Je suis mariée à un adulte surdoué ». Alors oui, le surdoué dans le couple aussi, il y aurait un livre entier à écrire là-dessus. Hein. Et ça n'est pas toujours simple, dit Alexandra. « J'ai souvent l'impression de passer pour une ignorante. C'est parfois difficile de se positionner. Avez-vous des conseils à me donner ?» Alors, le conjoint surdoué, il faut se le farcir aussi. Hein.
Oui, mais ce que je pense, c'est que quand un couple fonctionne bien, les deux sont doués. Peut-être que c'est réparti différemment. Peut-être que son conjoint est très intellectuel, intellectualise tout.
Mm-hmm.
Peut-être qu'il est un peu défensif d'ailleurs. Il défend son précaré, il ne veut pas qu'on le touche. Et qu'elle est plus spontanée. Donc elle dit des bêtises comme tous les gens spontanés.
Ouais.
Et lui il y a quelque chose, mais quand un couple fonctionne bien, un vrai couple, ils sont tous les deux doués.
Et puis ils ont l'intelligence de pouvoir en parler peut-être aussi entre eux,
et
non ?
Ils peuvent en parler et il y a une complicité qui se passe des mots.
Ouais.
Au-delà des mots, dans un couple qui fonctionne bien, il y a une complicité au-delà des mots et c'est vraiment l'essentiel.
Voilà, donc si on retient quelque chose de cette conversation, c'est ne pas hésiter justement à dire, à prendre en considération justement le potentiel de l'enfant.
Mais il ne faut pas le dire à tout le monde.
Ouais.
Il faut être très discret dans la famille, à l'école, là, il ne faut vraiment pas s'en vanter, parce qu'on a l'air de s'en vanter, mais il faut absolument le prendre en compte.
Ouais. Merci beaucoup Ariel Ada, ça s'appelle Psychologie des enfants très doués, ça sort aujourd'hui chez Odile Jacob, et merci aux nombreux auditeurs qui nous ont rejoints pendant cette émission à réécouter évidemment, juste après sur le podcast sur franceinter.fr. Et merci à Pierre-Yves de Rolin et Antoine Teboul qui était à la technique.